Bonjour à tous. Je déploie mes documents, mes parchemins et mes rouleaux. Où est-ce qu'il est ? J'apprécie beaucoup de prêcher quand c'est David qui préside. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres présidents. Mais en particulier aujourd'hui, parce que le thème de ma prédication, eh bien, il l'a développé pendant toute sa présidence. Le texte sur la gloire de Dieu, sur la purification des péchés, le Seigneur qui est assis dans les cieux, les cantiques, vraiment, tout concorde. Mais il faut que je parle aussi. Nous continuons donc notre série sur l'Épître aux Hébreux. La dernière fois, nous avons vu que autrefois, Dieu a parlé par les prophètes et maintenant, il parle en Fils. Dieu se révèle par sa parole. Il est un Dieu qui parle. La révélation en langage humain est essentielle à la communication du plan rédempteur de Dieu par Jésus-Christ, un message qui est adressé aux hommes, dans le langage des hommes. Cependant, nous avons vu que la révélation de l'Ancien Testament par les prophètes ne se suffit pas en elle-même. Elle est incomplète sans sa conclusion et son accomplissement en Jésus-Christ. Et dans l'expression « dans ces derniers temps », nous devons comprendre avec l'auteur de l'Épître que les personnes et les institutions dans l'Ancien Testament orientent vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ en qui nous trouvons la rédemption. Et nous avons quitté dimanche dernier l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au moment où il commençait à décrire de façon dithyrambique le Fils, porte-parole du Père, et il s'écrit « Dieu l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, que David nous en a parlé, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Nous l'avons chanté. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Il l'a établi héritier de toutes choses. L'héritier, c'est celui qui est apparenté à celui par qui l'héritage viendra. Et le Fils a été désigné, a été établi par le Père. Le Fils ne s'est pas autoproclamé héritier. Et le terme héritier ici suggère à la fois dignité, domination, avec implication du titre légal. Toutes choses seront soumises à l'autorité du Fils comme étant héritier. La présentation du Fils héritier de toutes choses correspond à la déclaration de Jésus dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Généralement, on retient de Matthieu 28 le fameux mandat missionnaire « Faites des disciples » et son non moins fameux « Des disciples qui font des disciples ». Mais ici, ce qui est important, c'est ce que dit Jésus. Il dit, en étant héritier de toutes choses, « Tout pouvoir lui a été donné » dans le ciel comme sur la terre. Et c'est ce que nous retenons. cette déclaration aussi de concernant Jésus qui à qui tout pouvoir a été donné en étant héritier affirme l'accomplissement d'une prophétie d'une célèbre prophétie de Daniel bien connue des Juifs dans Daniel 7 au verset 13 et 14 que nous allons lire. Daniel 7, chapitre 7, versets 13 et 14. Et Daniel dit, « Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Comme un fils de l'homme venant des nuées, sur les nuées, il lui fut donné domination, gloire et règne. Le fils de l'homme, c'est le titre que portait Jésus dans les évangiles. Ces versets du prophète Daniel étaient la réponse de Jésus quand il était devant Caïphe, le souverain sacrificateur, quand il avait été arrêté. Et Caïphe lui demandait, « Dis-le-nous, es-tu le Christ, le Messie, le Fils de Dieu ?» Et Jésus répond, « Tu l'as dit. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. » Dans le texte de Jérémie, c'était « on le fit approcher de l'Ancien des Jours », mais l'interprétation de Jésus, c'est « assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées ». Il dit ici explicitement qu'il est Dieu. Il dit explicitement sa nature divine, car pour les Juifs, seul Yahweh vient sur les nuées, chevauche les nuées. En anglais, ils disent « riding the clouds ». C'est une expression que les Juifs aiment bien. Et quand on prononce cette expression, pour eux, il s'agit de Dieu. Et vous verrez bientôt le Fils de l'homme venant chevaucher les nuages, venant sur les nuées. Caïphe a parfaitement compris cette déclaration de Jésus. Il a parfaitement compris que Jésus vient de lui dire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est Dieu, au même rang que Yahweh. Et qu'est-ce qu'il lui prend tout d'un coup? Il s'écrie, il a blasphémé. Il a dit qu'il était Dieu. Et il dit cela en déchirant ses vêtements pour apporter plus de puissance à sa déclaration. Il a blasphémé en disant ça. Il a déchiré ses vêtements. Chose qui lui était formellement interdite de faire. Un souverain sacrificateur ne doit pas déchirer ses vêtements. Les titres de fils, d'héritier, attribués à Jésus sont des allusions à des psaumes, comme le psaume 2, versets 7 et 8, qui est d'ailleurs un psaume de couronnement royal. Et ce psaume parle déjà de domination universelle. Il a été donné dans la prophétie de Daniel, la domination, la gloire et le règne. Allusion également au psaume 8, qui décrit la vocation du Fils de l'homme à tout dominer. Et c'est par lui, continue l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est par lui que Dieu a fait les mondes. Le Fils reçoit donc la possession de tout. En sa qualité de Fils, lui permet d'hériter de tout ce qui appartient à Dieu. Et de même, Dieu fait de lui l'agent de la création. L'Épître aux Hébreux n'est pas le seul à déclarer le Fils comme créateur. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 3, dans ce qu'on appelle le prologos, le prologue, l'introduction de l'évangile, au verset 3, tout a été fait par elle, elle, c'est-à-dire la parole, Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et aussi, et peut-être surtout dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 16, tout a été fait par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Le Fils n'est pas simplement le moyen par lequel le Père a créé le monde, mais il est aussi le maître et le but de la création. La création a été créée pour le Seigneur Jésus. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Alors là, on a une petite difficulté, même une grande, pour traduire ce qu'on a traduit ici par « les mondes ». Je vous passe le terme grec, mais il y a, dans ce mot, il y a deux sens. Il y a d'abord une terminologie spatiale. On peut traduire « les mondes ». Les objets dans l'espace, ou une terminologie temporelle, et on traduit alors les âges ou les siècles. Alors, on peut traduire « c'est par lui qu'il a fait les mondes » ou « c'est par lui qu'il a fait les siècles ». Les deux traductions sont terminologiquement possibles. Mais les érudits pensent que le sens temporel est meilleur. Mais dans ce sens temporel, on n'a pas terminé, évoque un temps dont on ne perçoit pas les limites, mais qui comporte également les réalités contenues dans ce temps. Je suis persuadé que les destinataires de l'Épître savaient exactement ce que l'auteur voulait leur dire. Moi, je trouve ce texte très riche, parce que je n'ai pas tout compris. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. David nous a abondamment parlé de la gloire du Seigneur. Dieu a établi le Fils comme héritier. Dieu a créé le monde par le Fils. Et du rôle du Fils dans la création, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'élève à une contemplation d'un peu plus haut, à l'être même du Fils. Et la personne, l'être même du Fils, il le définit par rapport au Père. Nous avons déjà vu dimanche dernier que la notion de filiation est la plus intime qui relie le Fils au Père. Il est donc naturel de définir l'être du Fils par rapport au Père. Le Fils est donc le resplendissement. Dans le texte, nous avons lu le rayonnement. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Le mot plus exact, c'est resplendissement par rapport au rayonnement. Il y a ici une connotation esthétique, plus beau. Resplendissement, resplendir, c'est briller. Avec intensité, un rayonnement peut être invisible. Un rayonnement, ce sont des rayons qui se déplacent. Ça peut être invisible, comme les rayons X, par exemple. Resplendissement et non pas reflet. Et l'auteur choisit bien les termes qu'il utilise pour ne pas, dit-on, montrer une infériorité du Fils par rapport au Père. Donc, resplendissement. Une autre image qu'on donne aussi, c'est que la différence entre le soleil et la lune. Tous les deux envoient de la lumière. Mais la lune n'est que le reflet, n'envoie que le reflet de la lumière. Tandis que le soleil envoie ses rayons. Il y a identité de nature entre le soleil et ses rayons. Mais il n'y a pas identité de nature entre la lune et le reflet qu'elle envoie. Et de même, il n'y a pas différence de nature entre Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est son resplendissement. Le Fils n'est pas un simple reflet du Père. Il est de même nature que celui dont il resplendit la gloire. Resplendissement de sa gloire. Alors, les spécialistes parlent ici d'un terme que j'ai découvert. Ils parlent de endiadis, c'est-à-dire qu'il y a deux mots ou deux expressions qui disent la même chose. Les deux mots ici, c'est resplendissement et gloire. Ils disent la même chose et ils sont associés. Dans la Bible, la gloire désigne souvent la manifestation lumineuse, éclatante de la personne de Dieu. C'est l'être divin lui-même quand il se manifeste avec splendeur. Cette gloire, Jésus est donc le resplendissement de la gloire de Dieu. Mais cette gloire n'a pas toujours été visible dans sa version extraordinaire chez Jésus le Fils, sauf sur la haute montagne où il fut métamorphosé devant ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et l'évangile de Matthieu dit que le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Plus tard, Jean, l'évangéliste, décrira cette gloire comme celle du Fils venu du Père. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et Jean, toujours lui, alors qu'il était dans l'île de Patmos, aura une vision de ce maître ressuscité, mais il ne reconnut ni son visage, ni sa voix. Et oui, il était tombé par terre devant l'éclat de cette apparition. Apocalypse, chapitre 1er, verset 17. Et Jésus, dans sa prière dite sacerdotale, Jean chapitre 17, disait qu'il ouvrait une petite fenêtre dans l'éternité d'avant. Il disait « Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus possédait cette gloire avant la création. Jean 17, verset 5. Ce Fils qui est le rayon de sa gloire est l'expression de son être. L'auteur de l'Épître aux Hébreux choisit encore des termes qui reflètent vraiment la même configuration entre le Père et le Fils, sans donner l'impression que le Fils est inférieur au Père. Et nous, on se perd un peu dans ces... dans les définitions, pas les destinataires de l'Épître. L'expression ou empreinte, image. Alors, l'empreinte, c'est l'image d'un sceau, S-C-E-A-U, ou d'une pièce de monnaie qu'on imprime sur de la cire. Et l'empreinte ainsi obtenue reproduit exactement tous les traits en relief du sceau. Le mot « empreinte », donc, évoque une ressemblance, une similitude plus exacte, une reproduction exacte, le Fils, de l'original Dieu. Il est l'empreinte, en quelque sorte, du Dieu invisible. L'empreinte de son être ou essence, ou substance. Alors là, on s'enfonce un peu plus. Et pour le dire plus simplement, que le mot « être » ici désigne Dieu dans son être profond. C'est la réalité même de Dieu. Ce sont des images, ce sont des métaphores. Et comme toutes les images que l'on donne pour expliquer, les images en tant qu'images sont imparfaites. Mais c'est tout ce que nous avons. Et nous croyons que Jésus est vraiment l'empreinte du Père et que Jésus est vraiment le resplendissement de sa personne. Nous le croyons. Resplendissement de sa gloire, empreinte de son être. C'est ce que nous avons essayé de dire dimanche dernier, que Jésus, homme, était la forme qui nous permet de voir le maximum de ce qui nous est possible de voir Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à son disciple Philippe qui lui dit « Mais montre-nous le Père !» Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout l'accent de ce passage que nous venons de lire, ce passage difficile, porte sur l'unité de Christ, le Fils, avec Dieu, le Père. Et cette vérité, il fallait la rappeler aux destinataires de l'Épître aux Hébreux. Ce Fils, resplendissement de sa gloire, empreinte de sa personne, soutient toute chose par sa parole puissante. On quitte un peu les sphères célestes et on revient, si je puis dire ainsi, sur terre. Oui, le Seigneur Jésus soutient l'univers par sa parole puissante. Il crée et il soutient. Il y a une doctrine qui, je crois, qui s'appelle le déisme, qui dit que Dieu crée, mais après il ne s'occupe plus de sa création. Il n'intervient plus. Et quand il intervient, eh bien, ce n'est pas surnaturel. Voilà. La Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, auteur inspiré, dit Dieu crée en la personne de Jésus, et il soutient l'univers, il soutient sa création en la personne de Jésus, par sa parole puissante. On peut rapprocher aussi avec l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 17, où il est dit « Le Fils maintient toutes choses ». Après avoir accompli la purification des péchés, thème qu'a développé David, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Nous l'avons aussi chanté. La mission du Fils n'était pas simplement de révéler Dieu, mais aussi de réconcilier Dieu avec les hommes. Le prologue, c'est-à-dire les premiers chapitres que nous venons de lire, le prologue passe ainsi de la divinité éternelle du Fils, divinité éternelle que le Fils partage avec le Père, à sa mort sacrificielle, la purification des péchés, et son exaltation qui suit s'asseoir dans les cieux, dans les lieux très hauts. Dans l'histoire de l'humanité, après la création, le premier événement majeur était la chute. C'est l'irruption du péché dans le monde créé avec ses conséquences funestes. Le péché dans sa fonction est le principal obstacle entre Dieu et les hommes. À cause du péché, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et le péché entraîne immanquablement la mort du pécheur. Car, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Les deux choses vont ensemble. Le péché, la mort. Qu'est-ce que le péché ? Quelle définition pourrait-on donner ? Alors, il y a une définition du péché qu'on aime beaucoup, c'est rater la cible. Mais Matthias nous a expliqué dans un fil rouge resté mémorable que cette définition, qui est exacte, c'est une définition étymologique, c'est-à-dire c'est le sens du mot qui veut dire « rater la cible ». Mais elle n'est pas toujours signifiante dans le contexte, dans le texte. C'est ce que nous disent les spécialistes, les exégètes. Il faut toujours se méfier de l'étymologie, surtout quand on ne connaît pas bien la langue. Comme moi, je regarde, je vais voir dans le grec, dictionnaire grec, je ne connais pas du tout le grec, mais je vois à quoi ça correspond. Et ça, ce n'est pas très bon dans les études bibliques, l'étude que du mot. Et d'ailleurs, cette définition étymologique ne rend pas compte de la gravité du péché. Rater la cible, c'est pas très grave. Dire que Jésus est mort sur la croix en portant mon péché, c'est quand même différent que de dire Jésus est mort sur la croix car j'ai raté la cible. Ça ne rend pas exactement la gravité du péché. Il y a une définition biblique du péché, c'est dans 1 Jean, 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et vous savez que le premier péché humain a été un acte. Le péché est toujours humain, excusez-moi. Le premier péché a été un acte de désobéissance. Il y a d'autres définitions du péché, comme une dette ou un esclavage, mais dans ce dernier cas, c'est plutôt une conséquence du péché. Est-ce que le péché a une place ? Quelle est la place du péché dans la Bible ? Elle est énorme. Elle est énorme. Et le thème de la... Et le thème du péché occupe une place vraiment très grande dans la Bible. C'est presque, dit-on, la moitié de, au point de vue volume, c'est presque la moitié des Écritures qui parlent du péché. Cela débute par l'irruption du péché dans la Genèse et s'achève par le jugement du péché dans l'Apocalypse. Et l'histoire de Jésus dans la Bible est expliqué en référence à ce thème. Avant sa naissance, déjà au début, l'ange Gabriel dira à Joseph, son père, en parlant de l'enfant qui va naître, il sauvera son peuple de ses péchés. Plus tard, Jean-Baptiste, son cousin, montrera à ses disciples, quand Jésus passe, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et plus tard encore, l'apôtre Paul dira que la résurrection de Jésus sera liée à notre justification, c'est-à-dire à l'effacement de nos péchés. C'est toute la logique biblique sur le salut. Le message concernant le péché, sa gravité et son unique remède. Après avoir accompli la purification des péchés. Cette expression que nous avons entendue aussi par David, cette expression est rare, telle qu'elle, dans le Nouveau Testament, mais la purification des péchés. Mais elle est très prisée dans le vocabulaire du sacerdoce, le vocabulaire sacerdotal, ainsi que l'expression pure et son contraire impur. Ce thème sera développé dans notre épître à partir du chapitre 7. Venez nombreux. Les péchés doivent donc être purifiés pour rétablir une relation avec Dieu. Et notre épître aux Hébreux montrera que les lois de l'Ancien Testament et le système sacrificiel n'ont pas résolu le problème du péché. Et que c'est le Fils de Dieu qui a résolu ce problème. Il a purifié les péchés une fois pour toutes, péchés qui ont été pardonnés. Et Pierre, l'apôtre Pierre, qui prêche à des Juifs, a dit, livre des Actes, chapitre 14, verset 43, « Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit le pardon des péchés. » Et aussi, acte 13, verset 38, « Par lui, par Jésus, le pardon des péchés est annoncé. Et en lui, il rejoint un peu l'épître aux Hébreux. Quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est en lui et pas par la loi de Moïse. Il y a un échec en quelque sorte de la loi de Moïse pour justifier le pécheur. Parce que la loi de Moïse vis-à-vis du péché, ça n'a peut-être pas été bien compris par les Juifs, ne justifie pas le pécheur, mais montre le péché. La loi de Moïse dit « ceci est un péché », mais ne résout pas le problème du péché. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté. Alors peut-être que dans vos Bibles, c'est la majesté divine. Non ? Non. Dans les lieux très hauts. Mais apparemment, dans le texte original, c'est à la droite de la majesté, sans le mot divine. Le Fils a donc accompli la mission qui lui a été confiée. Il a accompli la purification des péchés comme personne d'autre ne pouvait le faire. Par son sacrifice sur la croix, c'était une des raisons de son incarnation. Cette mission de purification des péchés est une étape décisive dans l'œuvre du Christ. Mais on a presque l'impression que c'est le succès de cette mission qui lui permet d'accéder à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Jésus est monté au ciel pour s'asseoir sur le trône. L'ascension et la cession, la cession c'est l'acte de s'asseoir avec un S, c'est un seul et même événement. Le Fils recouvre ainsi sa gloire originelle. Dans Jean 17, où il dit que, où il parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création. Il retrouve cette gloire. Et cette fois-ci, dans ses deux natures, Dieu et homme. Jésus est Dieu et homme quand il est au ciel, quand il est assis sur le trône. Avant, il n'était que Dieu. C'est le stade final de l'exaltation, ou l'autre mot, c'est glorification du Christ. Il est le premier homme à participer, en tant qu'homme, dans son humanité, à la gloire céleste, à la droite de la majesté. Alors, les Juifs n'aiment pas trop prononcer le mot de Dieu, de Yahweh. Donc, ils ont des tournures de phrases. Ici, c'est la majesté. Jésus, donc, est monté au ciel et s'est assis à la droite de la majesté. Expression qui a une grande affirmation, qu'on retrouve beaucoup dans cet épître. Et c'est d'abord le fait de s'asseoir à la droite. C'est d'abord une terminologie royale. Jésus règne en étant assis à la droite du Père sur son trône qu'il partage. Nous l'avons chanté aussi, assis à la droite de Dieu. Le trône est un lieu de souveraineté. Jésus assis à la droite de la majesté. Il y a beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à dire et à méditer sur le fait que Jésus s'est assis à la droite du Père. Mais nous voulons terminer sur ce troisième verset. Et nous avons vu que c'est très dense. Nous n'avons peut-être pas tout compris aujourd'hui. Nous comprendrons mieux, de mieux en mieux, au fur et à mesure des études. Pour ma part, je retiendrai que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il partage pleinement cette divinité avec le Père, qui s'est sacrifié pour le pardon de mes péchés. Et surtout, actuellement, maintenant, il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour moi. Je suis entièrement d'accord avec l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains, Romains chapitre 8, verset 34, « Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. » Et il ajoute « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Amen.